Trainville PM. La voie est libre.
You know how the caravan? I think the Democrats had something to do with it because people are seeing how bad it is, how pathetic it is, how bad our laws are. They made a big mistake. So as the caravan, and look, that is an assault on our country.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'est l'ineffable Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique.
Toujours enragé quand il parle, d'ailleurs.
Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Donc, il disait que la caravane des Honduriens, là, qui traverse le Mexique présentement en direction de la frontière américaine...
Qui est très loin de la frontière américaine, en passant.
Ils sont encore très loin de la frontière américaine.
Ils sont encore très loin de la frontière américaine.
Mais à ce que je sache, ils n'ont pas arrêté encore de marcher. Ils marchent toujours, hein?
Je crois que oui, mais vu que ça n'allait pas assez vite à son goût, Trump a été ajouté qu'il y avait sans doute des gens du Moyen-Orient qui s'étaient cachés parmi le groupe.
Il a dit essentiellement qu'il y a des terroristes parmi les Honduriens, ouais. Et il se sert de ça, et c'est ce qu'on vient d'entendre, pour assurer la réélection des candidats républicains pour les deux chambres dans 10 jours.
Eh oui, il est en train de créer le climat de peur qu'il a lui-même créé. Enfin, il l'entretient,
ouais.
Il jette de l'huile sur le feu, il fait tout pour que le pays soit enragé noir. Il joue sur les peurs des Américains.
Et ça marche?
Ah ça, oui, marche. Ça marche.
Il monte dans les sondages.
Il est à mi-chemin, il est à peu près à 45% dans les sondages. Maintenant, il y a d'autres raisons qui ont milité en sa faveur. Une qui est drôle, c'est presque ironique, mais la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, la façon dont ça s'est produit a permis à Trump de dire, vous voyez, ils vous ont sorti une madame quelconque là, qui n'en avait jamais parlé à personne, qui aurait été victime d'un assaut sexuel de la part de Brett Kavanaugh. Ça, c'est la preuve qu'ils veulent pas. Vous voyez, ils veulent pas qu'on ait les nôtres, c'est-à-dire des conservateurs qui sont contre l'avortement, des conservateurs qui sont pour la peine de mort,
qui sont
pour les armes à feu, voilà. Et le reste, et le reste, et le reste. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Alors ça, ça a comme ravivé sa base. Ça a craqué son monde au coton. Puis là, en faisant cette espèce de peur organisée, il met les démocrates dans une situation. Les démocrates,
les
problèmes qu'ils ont, les démocrates, entre autres problèmes, c'est que c'est un politicien tellement bizarre, ce Trump, que personne ne sait exactement comment réagir à ça. Sûrement que tu en as parlé depuis le début de ton émission, là, les colis suspects qui étaient en fait des bombes artisanales envoyées un peu partout à des démocrates aux États-Unis. Ça, là, je te dis, là, ça va jouer en faveur de Trump aussi. On dit, ah, tu vois, le pays, là, est en danger. Il va dire que ce sont des démocrates qui sont derrière ça. Il est en train de.
Mais comment il peut dire ça? Il s'attaque.
C'est n'importe quoi,
Bernard. Ce seraient des démocrates qui auraient envoyé des bombes à d'autres démocrates?
Oui, pour le faire mal paraître, tu te le dis. Je te le dis, ça va venir, ça sera pas très, très long. Et sa gang va le croire, parce qu'oublions pas...
Ils croient tout!
Oui, parce qu'ils sont informés tous au même endroit. Fox News, Breitbart News, il y a une série de médias, principalement sur l'Internet, mais à la télé aussi, que ces gens-là ne s'informent que là. Alors, la vérité n'a plus rien à voir. Et les autres, ceux qui votent plutôt démocrates, s'informent tous à CNN, New York Times, Washington Post et les autres. Alors, ça fait deux mondes qui sont pas au courant de ce qui se passe dans l'autre monde. Les faits n'ont plus aucune espèce d'importance. Il ment à répétition.
Je pense qu'il ment plus souvent qu'il dit la vérité.
Mais je suis pas sûr qu'il sait la différence, parfois, tu sais. C'est ça qui est un peu fou. Et cette histoire de... Tu sais, George Soros, là, tu connais le cas de George Soros?
Le milliardaire, le financier, là.
Ultra-milliardaire, un survivant de l'Holocauste qui s'est établi aux États-Unis dans la fin des années 40 et qui est devenu un grand mécène pour tout ce qui est de gauche, les militants de gauche. C'est rare, d'habitude les financiers font le contraire. Et là, comprends-tu, il est devenu la cible, mais la cible totale de tout ce qui est extrême droite, à commencer par Trump lui-même. Et qu'a-t-il de spécial? Soros, c'est un juif. Et tu te souviens de ce qu'on accusait les juifs de faire? Un complot mondial pour faire un takeover, puis... Tout ça là, qu'on a vécu dans l'Allemagne des années 30, là, c'est en plein ce qui est arrivé. Soros, c'est un de ceux qui a reçu une bombe artisanale dans sa boîte aux lettres. il est devenu là, comme l'être à abattre.
Il est devenu une cible de l'extrême droite.
Une cible de l'extrême droite, et le tout enrobé de l'antisémitisme classique qui remonte au Moyen Âge. Et Trump, au lieu d'essayer de calmer le jeu, il en remet. Et ce qui est très, très dur à avaler, Bernard, c'est que ça va mener à quoi? Ça va mener au fait que les républicains vont gagner.
Mais c'est ça qui est hallucinant, Luc. On en parlait hier, là, hors micro. Là. Il n'y a aucune figure démocrate qui
émerge.
Qui a émergé pour remplacer Obama. Dans les faits, là, si on voulait résumer, là, il n'y a pas de leader démocrate là, qui a de la stature, qui a du charisme, qui a du tirando dans l'opinion publique américaine.
Oui, il manque de leadership. Mais aussi, manque de cohérence. Il n'y a pas de message démocrate à l'heure actuelle. Si je te dis, tu vas voter démocrate, qu'est-ce qui t'amène à voter démocrate?
Anti-Trump.
Je suis anti-Trump, mais ils n'ont rien à offrir.
Non, c'est vrai, ça.
Ils n'ont rien à offrir. Alors, le Parti démocrate est totalement décontenancé devant cette espèce de bizarroïde personnage qui est Donald Trump. Toujours enragé, toujours en train de mentir, toujours en train de mettre le feu partout. Et là, le feu, on dirait qu'il est en train de prendre. Là,
c'est lui qui dicte l'agenda. C'est lui qui... Écoute.
Complètement.
Luc, il y a un mois, on se serait dit...
Il était fait. Il y a un mois, il était
fait. Il perd la chambre. Je pense qu'il va quand même perdre la chambre, mais c'est pas mal plus serré que ça aurait pu l'être.
Je suis pas sûr qu'il va la perdre, mais il perdra certainement pas le Sénat. Il y a deux mois, on pensait qu'il y avait des chances de perdre les deux.
Et il a trouvé une façon...
Créer une crise artificielle qui s'organise autour de quel thème? Le racisme, l'intolérance, la xénophobie et essentiellement... Le mensonge!
C'est
incroyable!
Nos auditeurs là, qui sont bien informés, là, je dis toujours, c'est notre meilleur focus group. Là. Il y a un auditeur qui m'écrit, il dit Rush Limbaugh, le fameux animateur radiophonique, là, très républicain, très de droite, a dit dans son émission du midi que les bombes, c'est un complot des démocrates.
Tu vois? Je te l'avais dit. Et sa gang va le croire. Là, Rush Limbaugh est le premier. Ce soir, ça va être Sean Hannity sur les ondes de Fox News. Là, ça va être Trump là, qui est présentement en train, il a parlé aux médias.
Il est en train de dire que la violence n'a pas sa place.
Ouais, il n'y a pas de place pour la violence aux États-Unis. Oh boy. Je suis bien d'accord avec lui, mais c'est qui fomente la violence? Alors là, Limbaugh, Hannity, Fox News, puis là, tout son univers qui est fermé, qui est opaque, qui est absolument imperméable à toute forme d'information autre que cette espèce de propagande, vont le croire, puis ça va continuer.
Sais-tu ce que ça nous amène à penser, c'est que tu te dis, s'il réussit à passer au travers des midterms, là, les élections de mi-mandat dans 10 jours, peut-être avec une défaite beaucoup moins importante que prévu, ou peut-être même par une victoire.
Oui.
Veux pas, on va se dire, toi et moi, puis bien du monde qui nous écoute, s'il était capable de renverser à vapeur comme il l'a fait avec les élections de mi-mandat, il peut aussi bien être élu à la présidence
absolument.
Dans 2 ans.
Absolument. Absolument. Ça m'a même que ça va plus ou moins de soi. Là. Ça... Oubliez pas une chose, la Chambre des représentants, si les démocrates la reprennent pas, ça signifie qu'il n'y aura jamais de destitution de Donald Trump. Ceux qui ont ce fantasme qu'il va être destitué grâce à la Constitution américaine, ça doit émaner de la Chambre des représentants.
Oui.
Et les républicains n'oseront jamais lancer une procédure en destitution. Alors lui, s'il traverse les midterms, quand même qu'il y a juste un siège de majorité à la Chambre des représentants, ça va être suffisant. Il va être capable de continuer à délirer, à déconner. C'est très, très, comment dire, cette grande république est en train de s'auto-détruire.
En fait, c'est
la fin de l'Empire américain. Là. Tous les pays du reste du monde sont en train de recréer toutes sortes d'alliances pour repousser les États-Unis. C'est le contraire de ce que ça a été. Les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était le leader du monde démocratique. Et là, maintenant, c'est plus ça, là. C'est le repoussoir absolu.
Ils repoussent d'un côté, puis ils se retranchent à l'intérieur de leur frontière de l'autre, avec du protectionnisme notamment. Alors là, il y en a un qui nous écrit, un auditeur, qui dit « Je verrais pour chef démocrate la fille de John Kennedy. » Caroline, j'imagine.
Oui,
hein?
Oui.
Je pense qu'il parle de John F. Là.
Oui.
Par ailleurs, il y en a un autre qui dit « Il s'en vient, le sauveur démocrate. Il s'appelle Beto O'Rourke et c'est lui qui va battre le républicain Ted Cruz au Texas dans 2 semaines. »
C'est vrai qu'il est très intéressant, ce jeune politicien-là. Hein?
Il se présente au Sénat. Il y a des chances de gagner au Texas, démocrate.
Il y a une vieille tradition démocrate au Texas, il ne faut pas oublier ça. Il y a encore un fond qui
Dans les villes, mais à l'extérieur des villes, il n'y a plus grande tradition démocrate.
Oui, mais ce jeune homme-là est assez impressionnant. Okay? Il y a les Américains qui cherchent cherche quelqu'un de macho. Il fait très macho. En plus, il est très articulé.
Il est-tu un peu populiste comme Trump? Il est-tu capable de le battre sur ce terrain-là?
Je pense que oui.
Oui?
Je pense que oui, mais... Ça dépend ce qu'on entend par populiste. Si on entend, est-ce qu'il est capable de le battre sur le terrain des mensonges?
Non. Je te parle de bon populiste. Quelqu'un qui est capable de connecter
avec
la population.
Oui. Et Cruz, là, c'est pas un candidat de rien du tout, là, Cruz. C'est une vedette du Parti républicain.
Il s'est présenté pour la présidence.
Oui, puis c'est lui qui s'est rendu le plus loin après Trump et c'est ça, comment s'appelait-il? Celui de l'État de l'Ohio.
Pas Rubio, hein?
Non,
Rubio,
Marco
Floride.
Rubio, il s'est fait domper plus vite que ça, lui.
Mais c'est, quel tu dis? Ohio?
Kasich.
Kasich, le gouverneur.
Oui.
Oui, c'est ça. Oui, absolument.
Alors, la fille de Kennedy, ça, là, c'est un des problèmes des démocrates. Là. Ils s'accrochent à des espèces de symboles qui remontent. Qu'est-ce que tu veux? John F. Kennedy, là, ça fait dans le genre 60 ans de ça, là. Et sa fille, elle n'a jamais fait de politique.
Non,
puis elle s'est essayée à un moment donné parce qu'il voulait lui donner le siège du Sénat qui s'était libéré. Non, elle a fini par renoncer. Elle était même...
C'est vrai qu'elle avait fait... Il y avait un flottement pendant
absolument.
Lequel elle réfléchissait.
Après ça, elle était ambassadeur au Japon,
tout. Ouais. Alors, quelqu'un nous demande d'expliquer-nous les midterms. Mais essentiellement, les midterms, c'est à tous les deux ans. La Chambre des représentants, ils sont 435. Ils vont tous en élection.
Puis un tiers du Sénat.
Et le tiers du Sénat s'en va en élection aussi aux deux ans.
Parce qu'il faut savoir que la Chambre des représentants, ce sont des mandats de 2 ans. Le Sénat, ce sont des mandats de 6 ans.
Voilà.
Alors, il y a un tiers du Sénat qui se renouvelle à tous les 2 ans,
exact.
Alors que toute la Chambre des représentants est réélue au complet. Alors, c'est ça, les midterms.
Nos éditeurs nous rappellent que Caroline Kennedy a été ambassadrice au Japon.
C'est
quand
ça
même.
Que je viens de dire tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Alors, on va s'arrêter, parce qu'au retour, on va... alors ça, c'était ta mauvaise nouvelle.
Oui.
Ta bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est ça a rapport avec Anticosti. Je vais prendre le temps d'aller à la pause, prendre une grande respiration et... nous préparer à cet échange qui sera sans doute fort intéressant après la pause.
Drainville PM. La voie est libre.
Pour nous, on revient sur l'acceptabilité sociale. À partir du moment où il y aurait un projet, une éventualité, une question hypothétique, on va le regarder.
C'est l'acceptabilité sociale de qui vous allez regarder? Les gens du Québec en entier ou des gens qui vivent sur Anticosti 225?
En réalité, il y a des gens de proximité. Puis il y a l'ensemble du Québec.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'est Jonathan Julien, le nouveau ministre des Ressources naturelles que vous entendiez, député d'Abitibi...
Québec, excusez-moi,
je me mélange avec Forêt. Oui, on apprend à les connaître. Alors, Jonathan Julien, donc, il disait, on n'est pas fermé, nous autres, à la CAQ, à relancer les projets d'exploration, je dis bien exploration, pas exploitation, sur Anticosti. Et Luc Lavoie, tu t'en réjouis. Dans le fond, c'est ta bonne nouvelle.
Je m'en réjouis. Oui, je m'en réjouis parce que, je pense que c'est une des décisions les plus difficiles à comprendre de Philippe Couillard. Il est allé à un sommet à Paris sur l'environnement, puis il est revenu de là, puis il était plus vert que le bonhomme vert.
Le géant vert.
Et là, ce projet-là d'exploration, c'est un projet qui a été lancé sous le gouvernement auquel tu appartenais, à mon souvenir.
Oui.
Et c'était un... est-ce qu'il y en a, oui ou non, du pétrole à l'île d'Anticosti?
On ne le sait pas.
Parce qu'on a bloqué les systèmes avant qu'on le sache.
Mais on a dépensé beaucoup d'argent pour ne pas le savoir, finalement.
Ben, c'est ça. Ça a coûté 56 millions au gouvernement pour rompre les contrats qui étaient en place. Alors là, on ne sait toujours pas s'il y a du pétrole à l'île d'Anticosti.
Mais là, tu es prêt à repomper de l'argent dans l'île pour essayer de savoir si on en a ou pas?
Que le secteur privé en pompe.
OK, pas d'argent d'État.
Non, pas du tout.
Pas d'argent d'État.
Pas d'argent d'État dans ça, non.
Parce que moi, je vais te dire, moi, j'ai été solidaire de la décision qu'on a prise comme gouvernement. même quand je disais, écoutez, moi, ma position, ça a toujours été, on peut-tu aller voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas?
Oui, c'est la première affaire.
Bon.
Après, on décidera.
Puis après, on décidera, est-ce que ça vaut la peine de le sortir? Est-ce que le coût écologique, parce qu'il y en aura un, vaut la peine de le sortir, etc., etc.?
Ben oui, mais c'est un peu plus complexe que ça, Bernard. C'est, est-ce qu'il y en a, ça, c'est une question, il est où?
Ben oui, mais tout ça va ensemble.
C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis c'est plus complexe.
Il coûte combien
ça coûte combien à sortir de là, puis quel dommage peut-il créer?
Voilà, faut-tu faire la fracturation, puis tout ça, là.
Mais avant, il faut que tu commences par aller voir s'il y en a.
Oui, mais là, le Couillard a tiré la plug là-dessus.
Oui, ça a coûté 56 millions pour la rupture des contrats.
Fait que là, moi, je vais te dire, alors, il a fermé ce dossier-là, et non seulement il l'a fermé, l'île est maintenant candidate pour être reconnue comme site patrimonial de l'UNESCO.
Ce que je pense qu'elle n'obtiendra pas en passant, là.
Ben, moi, je vais te dire franchement, Luc, là, moi, je suis d'avis qu'on ne doit pas rouvrir ce dossier-là.
Ben, moi, je suis d'avis que c'est une excellente chose qu'on aille voir si on a ces ressources-là et qu'ensuite, on décide ce qu'on en fait. Moi, quand je peux prendre ma ressource chez nous, j'aime mieux ça que quand je vais l'acheter à l'étranger parce que ça sert mieux mon économie. Ouais. Et ensuite...
Mais là, il faut s'ajuster, là. Les chiffres sur le réchauffement de la planète, là, Luc, là, ne cessent d'augmenter.
Ça n'a pas de rapport.
Oui, c'est un rapport.
Non, ça n'en a pas.
Oui, c'est un rapport ben non, parce que pas. Plus on consomme d'hydrocarbures, plus on produit de gaz à effet de serre, plus la température augmente. Et là, on est rendu
oui,
à un niveau
critique. On va en consommer quand même, Bernard.
De moins en moins. De moins en moins.
Mais
et heureusement,
c'est quoi que
de moins
dire?
En moins.
C'est d'ici là, on est mieux de l'acheter ailleurs.
Ce que, je dis, c'est que d'ici là, il faut diminuer notre consommation. Et plutôt que de démarrer des travaux sur l'île, gardons-la vierge. Et n'entamons pas ces travaux-là. Alors là, tu vas me dire, Bernard, tu as changé d'idée? La réponse, c'est oui, j'ai changé d'idée.
Ça ne change pas.
Il y a juste les
fous
qui changent d'idée.
La question des gaz à effet de serre, ça ne le change pas.
Oui, ça les change.
Quand le pétrole vient du Venezuela, puis que je le consomme ici,
il va en avoir de moins en moins. Luc, oui, c'est évident, ça.
C'est pas en coupant.
Il va en avoir de moins en moins du maudit pétrole qu'on va importer d'ailleurs, parce qu'on va diminuer notre consommation. Et je souhaite...
On en a encore pour un bon bout, là.
Garde, là, Luc, là. Là, il faut à un moment donné se regarder dans le miroir puis se dire, nous autres, comme société puis comme être humain, là, est-ce qu'on est prêt à changer nos façons de faire pour faire notre part, pour sauver la planète? Et moi, je te dis, dans la liste des choses que je suis prêt à faire, je suis prêt à changer d'idée sur Anticosti et à dire, le gaz puis le pétrole qui pourrait s'y trouver, qui reste là et... qu'on en garde.
En tout respect,
j'ai
Bernard,
soutenu cette décision-là jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Couillard dise c'est fini, on tire la plug. Bon, ben on va pas mettre la plug dans la plug. Comprends-tu?
En tout respect, t'as choisi la mauvaise raison pour changer d'avis.
Non.
Parce que
sauver la planète,
parce que
c'est une bonne raison.
Je te le répète, le pétrole venu du Venezuela fait autant de dommages à l'atmosphère que celui venu de chez nous. C'est juste qu'il coûte plus cher. Puis l'économie, elle reste ici.
Ouais.
Mais je comprends pas qu'est-ce que ça vient changer.
Une fois que tu vas avoir commencé à exploiter l'île,
oui.
Tu vas être dans un engrenage qui va faire en sorte qu'on va vouloir continuer.
Non.
Et moi, ce que je te dis, c'est que d'ici 10, 15 ans, le monde va changer bien plus vite que tu l'anticipes. Ce que tu vois pas venir, c'est la vitesse avec laquelle les changements vont se faire dans les prochaines années.
Je le vois venir, mais...
Ben, on n'aura plus besoin de ce pétrole-là. On n'aura plus besoin de ce pétrole-là.
Dans 15 ans?
Ben, dans 10 ans, dans 15 ans,
ça va se faire extrêmement rapidement. Non, pas 10 ans, 15 ans.
Je te dis pas qu'on va arrêter de consommer du pétrole dans 10 ans, dans 15 ans. Je te dis que la diminution de consommation va être brutale. On va diminuer de beaucoup notre consommation de pétrole.
Et si pendant 10 ans, nous avons réussi à nous alimenter par nous-mêmes au lieu de l'importer, ça va pas aider mon économie.
Arrête.
Pourquoi? Arrête.
Arrête. Le temps que ça va prendre pour driller sur l'île, analyser résultats, amener les plateformes, creuser, tati, tata. On en a pour 10 ans avant de pomper du gaz puis du pétrole sur Anticosti.
Peut-être.
Rendu là, on n'aura plus besoin.
Peut-être. Allons voir s'il y en a.
Préservons-le.
Allons voir s'il y en a.
J'étais de ton avis.
Parce que moi, je pense que...
J'ai changé d'idée.
Je pense que ton 10 ans n'est pas réaliste.
Moi, je pense qu'il est très réaliste. C'est ça que je réalise.
Oui, mais...
Sais-tu quoi? S'il n'est pas réaliste, il faut s'organiser pour qu'il le soit. Parce qu'on va crever, mon ami. Au rythme où ça va, au rythme où ça se réchauffe. Luc, ris pas. Je te le dis, les derniers chiffres du GIEC sont extrêmement clairs. On est vraiment arrivé à un point critique de l'histoire de la planète. Il faut donner un coup de barre radical.
Ça fait que pour les 15-20 prochaines années, parce que je pense qu'il ne va rien se passer avant une vingtaine d'années, ça va se faire graduellement. Il va y avoir de plus en plus de voitures électriques, ce qui est excellent pour notre économie à nous aussi.
Oui.
Il va y avoir de plus en plus d'utilisation de l'énergie dite verte, ce qui est aussi une excellente affaire.
Oui.
Mais le changement, il va se faire quand ça va devenir économiquement attirant pour les gens. Et ça s'en vient. Et ça va s'en venir bien plus vite si on prend notre propre pétrole au lieu d'aller chercher l'argent puis l'envoyer carré à l'étranger. Dans des pays un peu crottés, merci beaucoup.
J'ai dit, oui, ils sont crottés, effectivement. Puis on va devenir crottés si on rentre dans cette logique-là.
Bernard,
oui,
on vient de toucher
son... Non, il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer. Puis il faut faire
notre
part.
Il n'y a pas de rapport entre la production et les gaz à effet de serre. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de rapport entre l'idée d'aller explorer puis exploiter une île pour du pétrole dont on n'aura plus de besoin.
Bien, je pense qu'on va en avoir besoin.
Moi, je pense que non.
Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que non.
Moi, je pense que oui.
Je pense que non. Puis là,
mais moi, je pense que oui.
C'est fini, puis tu reviendras demain.
Parce que là, tu as décidé que c'était fini, mais non, ben oui, parce que
j'ai Larry qui dit vite, parce qu'on a encore le sujet, l'Alzheimer. Y a-t-il un lien entre l'Alzheimer et les feux sauvages? Je remarque d'ailleurs que tu as un petit feu sauvage ou quoi, à la commissure des lèvres.